Chapitre 29. Les Dahlias. Un soleil radieux brillait dans le ciel lorsque Daniel, au bras du comte de Fleurac, sortit de l'église Saint-Honoré des Laux. Dans la haie des curieux, il y eut plusieurs personnes qui remarquèrent que la jeune mariée avait un air triste, que le marié devait avoir une vingtaine d'années de plus que sa femme. Après le lunch, qui eut lieu avenue du président Wilson, Daniel se retira dans sa chambre. Elle se regarda un instant dans une glace, puis, d'un geste las, elle ôta la couronne de fleurs d'oranger, la jeta comme elle eût fait du châle qui eût entouré son cou un jour d'hiver. Puis elle ôta sa longue robe blanche. À ce moment, elle fut prise d'un tremblement. Elle avait la fièvre. Il lui semblait qu'il faisait glacial. Dans une heure, peut-être, le comte de Fleurac, qui était parti se changer, serait de retour. Alors il ne resterait rien de la cérémonie. Elle serait sa femme. Cette pensée la fit frissonner. Elle se dirigea vers sa garde-robe. Le lit était tout près d'elle. Brusquement, elle s'y jeta, se cacha le visage et se mit à sangloter. « Florent, Florent !» balbutia-t-elle. 10 minutes s'écoulèrent ainsi avant qu'elle retrouvât son calme. Elle s'habilla. Peu après, elle rejoignait son mari. Tous deux montèrent dans une voiture. « Où allons-nous ? » demanda Daniel avec résignation. Robert de Fleurac n'avait rien d'un nouveau marié. Il semblait ennuyé. « Nous devions partir ce soir pour Lausanne, n'est-ce pas ?»«
Je crois en effet que c'est ce que vous aviez décidé. »«
Vous n'y tenez pas particulièrement ?»«
Je ferai ce que vous désirez. »
La voiture, qui venait de descendre à l'avenue des Champs-Élysées, s'engagea dans la rue Royale. « J'aurais voulu, continua le comte, rester ce soir à Paris. »«
Si vous voulez, je vous ai déjà dit que je ferai tout ce que vous désirerez. »
« Nous dînerons ensemble. Je vous conduirai ensuite à l'hôtel. Malheureusement, je serai obligé de m'absenter. Avant de quitter Paris, j'ai certains amis à voir. Oh, il ne s'agit pas d'enterrer une vie de garçon. Je m'y prendrai un peu tard. Il s'agit d'affaires. Plus tard, vous comprendrez. Pour le moment, ce serait trop long à vous expliquer. » La vérité était que le comte avait une maîtresse. Cette femme avait fait tout ce qu'elle avait pu pour empêcher ce mariage. Le comte, à force de patience, avait réussi finalement à lui faire comprendre qu'il ne se mariait que par intérêt. « La preuve, avait-il dit, c'est que la nuit de mes noces, je la passerai avec toi. » À présent, il s'agissait de tenir parole.
« Je ne veux pas rester seule dans un hôtel, » répondit Daniel.
« Pourquoi ? Vous serez très bien. »«
J'aurai peur, je me sentirai perdue. »
Ce n'était pas pour retenir son mari que Daniel parlait ainsi, mais pour qu'il lui permît de retourner dans sa famille. Depuis qu'elle avait quitté l'avenue du président Wilson, elle éprouvait une sorte de malaise à côté de cet homme qu'elle n'aimait pas, seule dans Paris. L'automobile s'était arrêtée place de l'Opéra, devant le théâtre, pour ne pas gêner la circulation. « Soyez raisonnable, Daniel, nous sommes arrivés. »«
Non, non, je comprends très bien que vous ayez affaire. Dans ce cas, je vais retourner dans ma famille pour la nuit. »
Le comte sursauta. « C'est impossible, Daniel, vous ne savez pas ce que vous dites. »«
Pourquoi ?»«
Je vous en prie, ne parlez plus de cela. »«
En tout cas, je n'irai pas dans un hôtel que je ne connais pas. »«
Dites-moi à quel hôtel vous voulez descendre. »«
Je n'en connais aucun. Je ne veux pas passer la nuit dans un hôtel à Paris. J'irai à Chantilly, si vous voulez, au château de Selles. »« Pourquoi pas au château ? Personne ne le saura. » « Vous n'avez qu'à me donner rendez-vous pour demain matin. »«
Et votre oncle ?»«
Il n'y est pas en ce moment. »
Robert de Fleurac feignit d'hésiter. « Après tout, si vous préférez cela, » dit-il finalement comme à regret, mais ravi au fond de cette solution. Il était un peu plus de 6 heures quand Daniel arriva dans une de ses voitures de louage de la place de l'Opéra au château de Selles. Peu à peu, sur la route, la pensée qu'elle était mariée s'était obscurcie. Elle s'était sentie redevenir la jeune fille qu'elle avait été le matin. Elle s'était surprise à admirer des paysages, notamment celui que l'on découvre au sortir de Vauverland, à aspirer confusément au bonheur. « Mademoiselle vient pour quelques jours ?» demanda le concierge en s'avançant vers Daniel. « Malheureusement non, je repars demain. »
Le soleil commençait à décliner et la campagne, sous ses feux obliques, semblait se reposer d'une première victoire. « Quand plantera-t-on les dahlias ?» demanda Daniel en désignant la plate-bande qui s'étendait devant le château. « Je voudrais le faire aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Je le ferai demain matin. » « Je vous aiderai si vous commencez de bonne heure. »«
Je vais les chercher tout à l'heure, dans ce cas, » fit le concierge, « de manière que nous puissions commencer très tôt demain matin. »«
Où sont-ils ? » ?»«
Vous savez bien, mademoiselle, qu'on les déterre à la fin de l'automne et que, pour l'hiver, on met les tubercules à la cave. »«
Vous m'avertirez quand vous irez à la cave. Je vous accompagnerai. »
Elle s'engagea sur la longue pelouse qui descendait jusqu'à la forêt, cherchant des yeux les bourgeons, attentive au chant des oiseaux. Bientôt, sans l'avoir voulu, elle se trouva près du pavillon de chasse où elle avait rencontré quelques mois plus tôt Florent. Elle s'arrêta, subitement indifférente à la nature. Une grande tristesse se peignit sur son visage. La promenade qu'elle avait faite avec Florent dans ces parages, elle ne l'oublierait jamais. Elle refit le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble, se rassit sur le banc où ils s'étaient assis. Le soleil avait disparu derrière les arbres. On eût dit que ces derniers masquaient un incendie. Soudain, il y eut un grand silence. Les oiseaux eux-mêmes se turent. Puis, dans le lointain, là-bas où la forêt semblait brûler, une plainte cuivrée s'éleva, celle du cor. Daniel se leva brusquement, porta les mains à ses oreilles. Non, elle ne voulait pas l'entendre. Tournant le dos à la lumière, elle se mit presque à courir vers le château, sur lequel le crépuscule commençait à tomber.
« Je vous cherchais, mademoiselle, lui dit le concierge. Si vous le voulez bien, nous pourrions descendre maintenant prendre les dahlias. »
Elle descendit les marches, suivit un long couloir voûté, pénétra dans la cave. Soudain, elle s'arrêta, poussa un cri perçant. La lampe pencha tellement dans sa main que le verre tomba et se brisa.
« Que se passe-t-il ? » demanda le concierge.
« Regardez ! Regardez !»
Un homme était étendu par terre, la tête posée sur un sac, le visage tourné vers le mur.
« Un vagabond ! » s'écria le concierge.
Il voulut prendre la lampe, dont la flamme se terminait en une épaisse fumée.
« Non, laissez-moi ! » fit Daniel, qui avait reconnu Florent.
À la grande surprise du concierge, elle se précipita vers l'homme étendu, posa la lampe sur le sol, lui prit les mains, les frappa.
« Florent, Florent, qu'avez-vous ? Que vous est-il arrivé ? Répondez-moi, je vous en supplie, répondez-moi »
Le jeune homme ne bougea pas.
« Aidez-moi !» dit Daniel en s'adressant au concierge. « Vous voyez bien que ce garçon a perdu connaissance !»
Quelques instants plus tard, Florent était étendu sur le lit de Daniel. Ses yeux étaient encore fermés, mais sa respiration était plus régulière. Le concierge était parti chercher de l'eau et de l'alcool. Daniel le regardait avec amour et effroi. Ses vêtements étaient couverts de plâtre et de terre. Les ongles de ses doigts étaient cassés et en sang. Il avait le visage maculé de charbon. À le voir ainsi, on eût dit qu'il avait soutenu une lutte à mort.
« Donnez-moi vite un verre d'eau !» dit Daniel au concierge qui était revenu.
Elle mouilla une serviette, lava le visage, les mains du jeune homme. Il ouvrit les yeux, aperçut Daniel, mais ne la reconnut pas.
« Florent, c'est moi qui suis près de vous !»
Il sourit à cette voix qui lui était chère.
« Daniel ? » interrogea-t-il. « Je suis près de vous, Florent, je suis près de vous !»
Son visage redevint grave. On sentait que le jeune homme luttait pour recouvrer ses sens. Soudain, son regard s'éclaira.
« Daniel, je vous vois » balbutia-t-il.
Il l'attira à lui, la serra contre sa poitrine, à la grande surprise du concierge.
« Je me souviens de tout à présent, Daniel. Quel jour sommes-nous ? »
« Le 14 avril. »
Il la repoussa avec violence.
« Vous êtes marié ? »
Elle ne répondit pas, baissa la tête. Il lui prit le poignet, la serra avec tant de force que Daniel ne put retenir un léger cri.
« C'est affreux, ma chérie !»«
Voyons, Florent, ne me parlez plus comme cela. Vous savez bien que vous ne le devez pas. »«
Je ne suis pas votre frère. »«
Comment ?»«
Je vous répète que je ne suis pas votre frère. Monsieur Marondier m'a trompé.
Il voulait m'écarter. Il y a réussi, et maintenant c'est trop tard.
Vous n'êtes pas mon frère ?
Non, non, non.
Daniel demeura un instant muette, puis brusquement, elle se jeta sur le lit, étreignit le peintre, le couvrit de baisers.
Laissez-moi, laissez-moi, vous appartenez à un autre. Il est écrit que nous ne devions pas unir nos destinées. Vous êtes une sœur maintenant que vous êtes une femme mariée, une femme à qui un homme a déjà révélé l'amour.
Le même jour, à minuit, Florent et Daniel ne dormaient pas encore. La nuit était douce, les étoiles brillaient dans le ciel. Ils étaient assis l'un près de l'autre sur la terrasse du château désert.
« Florent, je suis heureuse, je divorcerai, je ferai annuler mon mariage à Rome et je serai à vous. »«
Vous dites cela tristement, Daniel. »
« Je pense à mon père. Il serait fier que je sois comtesse de Fleurac. »«
Vous serez comtesse de la joaillerie. »«
Que voulez-vous dire ?»«
Demain, je vous présenterai à mon père. Alors, vous comprendrez. »
Le visage de Daniel demeura grave.
« Vous avez un souci ?» demanda le peintre.
« Non.
Je devine que vous me cachez quelque chose. »
Elle prit les mains de Florent, ces mêmes mains qui, deux jours plus tôt, s'étaient meurtries au mur de la cave.
« Je crains que vous ne pardonniez jamais à mon père, » murmura-t-elle.
« Ne dites pas cela, Daniel. Quand un homme est heureux comme je le suis, il ne doit pas garder rancune à qui que ce soit. » C'est moi, Daniel, au contraire, qui dois me faire pardonner mon bonheur. »